Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nous avons créé notre propre réseau social. C'est la plateforme Action Populaire.
Jean-Luc Mélenchon, candidat à la France Insoumise le 14 janvier 2021.
C'est elle qui permet de recueillir aujourd'hui les signatures. C'est aussi celle qui va nous permettre d'organiser de manière libre l'interaction entre les personnes qui participent à notre bataille politique.
Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail.
Emmanuel Macron, président, dans la web-série « Le candidat » sur YouTube, le 4 mars 2022.
Et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, et être dans le même temps. Voilà, je voulais aussi soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
Je ne comprends pas leur discours, je ne comprends pas là où ils veulent en venir, je n'arrive pas à cerner ce qu'ils racontent.
Magali Berda, influenceuse, le 22 janvier 2022.
Donc du coup, je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas une chaîne YouTube pour, avec ma tête, mon cerveau et mon intelligence à moi, donc qui n'est pas la même que la leur, certainement, essayer de comprendre qui ils sont. Et après, je pourrais me décider.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Présidentielle, notre rendez-vous hebdomadaire où on parle d'élections au mandat suprême, de ses coulisses, de pouvoir, d'argent, de sondages, mais aussi de ferveur populaire, d'idées, de conquêtes, de l'Élysée. Pour ce troisième épisode, place au web, aux réseaux sociaux et les présidentielles. En une quinzaine d'années, ils sont devenus essentiels dans la communication politique, tant dans la façon de militer que de s'adresser aux électeurs. Des messages d'opposition au référendum de 2005, au blog et forum des candidats Sarkozy et Royal en 2007, la montée en puissance de Facebook et Twitter au tournant des années 2010, aujourd'hui, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, autant de plateformes pour faire entendre sa voix, mobiliser les militants, connaître son électorat. Dans la conquête de l'Élysée, les candidats et leurs équipes chassent autant les likes que les électeurs. Même si l'influence réelle des réseaux sociaux sur les électeurs n'est pas quantifiée. Les réseaux sociaux sont-ils orientés? Donnent-ils une prime à certains candidats? En quoi le travail numérique des équipes sert ou dessert les candidats? On en parle avec...
Je suis Stéphanie Wojcik, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Est Créteil et je suis également directrice du département de communication politique et publique de l'UPEC et membre du CEDITEC également, qui est mon laboratoire de recherche.
Première question, est-ce que, à la faveur de la crise sanitaire, la campagne électorale 2022 se joue-t-elle sur Internet?
Il y a plein d'initiatives de la part des partis, des candidats, depuis plus, on va dire en France, hein, si je reste en France, sur une quinzaine d'années. La crise sanitaire, si j'ose dire, met en exergue ces différentes initiatives. Hein. On parlera évidemment de la campagne actuelle, avec peut-être la volonté d'être encore plus actif sur le web, dans la mesure où les meetings pourraient être potentiellement restreints. Mais je vois que ce n'est pas vraiment le cas. Je vois que les candidats, actuellement, ils multiplient les meetings, donc ils respectent les règles avec les conditions sanitaires. Donc, je pense que la dimension, on va dire, en présentiel, physique, sur le terrain, dans les marchés, les opérations de tractage, de porte-à-porte, les meetings, il reste quand même extrêmement présent. Je pourrais dire que c'est un accélérateur, la crise sanitaire, que ça met en exergue des initiatives qui existaient, peut-être pas les mêmes, mais qui existaient antérieurement, mais je ne dirais pas que c'est à cause de la crise sanitaire qu'on voit la campagne se dérouler sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'initiatives. Après, la question des effets sur le vote, sur les comportements électoraux, ça c'est encore autre chose.
Les réseaux sociaux sont devenus un outil essentiel pour les campagnes présidentielles. Sont-ils orientés en termes de position partisane? Donnent-ils une prime à certains candidats?
Les réseaux sociaux sont effectivement important dans le cadre d'une campagne électorale. Enfin, je dis réseaux sociaux, je dis web aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le site web du candidat qui constitue quand même une base importante, une référence pour les militants, dans laquelle ils peuvent trouver du matériel à télécharger, les argumentaires, l'agenda. Enfin, c'est 1.0, mais c'est quand même aussi important. Il y a aussi des listes de diffusion, de discussion qui ne sont pas... Donc, il y a toute une partie peut-être un peu plus ancienne qu'il faut aussi avoir présente à l'esprit. Et puis, il y a quand même le poids toujours présent des médias traditionnels. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est en articulation aussi avec les médias de masse et notamment la télévision. Un candidat à choisir entre une intervention aux 20h et une intervention sur Twitch, je vous laisse deviner ce qu'il va prendre quand même. Donc, il y a effectivement une influence, enfin une importance qu'il ne faut pas négliger, mais ça ne fait pas disparaître pour autant le rôle important des médias, notamment télévisuels et radiophoniques. Alors, pour venir à votre question, qui est quand même très difficile, il y a eu une enquête menée par Twitter, le réseau social lui-même, qui montre, sans qu'on sache bien expliquer pourquoi, l'algorithme finalement de Twitter met en visibilité davantage les contenus issus, donc dans différents partis, les différents pays qui ont été, je crois qu'il y a 7 pays qui ont été étudiés, donc il mettrait en visibilité davantage les contenus produits par les partis de droite. Les auteurs de l'étude eux-mêmes se bornent à faire ce constat et on n'a pas véritablement d'explication, sans compter le fait que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ce ne sont pas finalement les contenus d'extrême droite, dont on pourrait penser qu'ils ont une charge virale plus importante, qu'ils sont plus clivants et donc qu'ils seraient plus visibles, parce que plus c'est clivant, plus ça peut être visible. Mais en réalité, les auteurs montrent que ce n'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, on n'a que Twitter, mais Twitter est une infime partie de ce que l'on peut observer sur par rapport au militantisme numérique. Il y a, vous l'avez rappelé dans votre question, il y a des choses aussi anciennes, si on peut dire, que Facebook, il y a TikTok, effectivement, il y a Instagram également qui est aussi utilisé, il y a Twitch, il y a Discord, Telegram, donc il y a une panoplie, on va dire, d'outils numériques qui articulent différents, ce qu'un de mes collègues appellent différents territoires de visibilité. Les candidats veulent être visibles à peu près partout, mais on n'a pas de réponse véritablement sur le poids des algorithmes, sur le pourquoi, on va dire. Cela oriente en faveur de telle ou telle mouvance idéologique, on va dire.
Vous avez rappelé l'étude de Twitter de 2021 qui révèle que son algorithme favorise les discours de droite. Est-ce que les plateformes, en général, survalorisent les contenus comme le buzz, l'humour ou les discours clivants ?
Alors, il y a de ça. Il paraît assez net que les contenus plutôt humoristiques, plutôt clivants, sont davantage viraux dans le sens où ils sont davantage likés, partagés, donc... si on suit la logique de l'algorithme, sont davantage mis en visibilité. Mais il ne faut pas oublier non plus que derrière ces contenus, il y a des organisations et des structures partisanes plus ou moins bien organisées et que la mise en visibilité de tel ou tel contenu, elle est aussi le fait de l'activisme souterrain, on va dire, c'est-à-dire celui qu'on ne voit pas. Et en tant qu'internaute, quand on regarde, en tant que simple citoyen, on ne voit pas forcément tout le travail qui est mené par les sympathisants, par les militants et les injonctions qui sont produites par les parti pour tweeter massivement tel ou tel contenu, partager telle ou telle vidéo. C'est ancien, c'est pas propre à cette campagne-là. Moi, je me souviens en 2012 la campagne de François Bayrou qui avait gamifié, on va dire, sa campagne et les militants, chaque fois qu'il mettait en visibilité tel ou tel contenu, il gagnait des badges. Donc, il y avait aussi une prime. On pouvait analyser ça un petit peu avec l'angle théorique du courant des usages et gratifications. Chaque fois que vous faisiez une action militante, eh bien, vous étiez vous-même valorisé. Ça valait ce que ça valait, mais il y a encore beaucoup de ça dans le militantisme aussi aujourd'hui. Et donc, moi, je pense qu'il y a le poids de l'algorithme, mais l'algorithme, il fonctionne aussi en fonction des comportements des utilisateurs. Je pense que c'est assez important, même si les militants peuvent se détacher parfois des consignes qui sont données par les partis politiques. Ils peuvent être critiques par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Enfin, il y a plein d'épisodes où, typiquement, les choses qui relèvent du live tweet, les choses qui relèvent de répondre à des sondages en ligne, massivement, les militants sont invités, conviés, incités à répondre à des sondages en ligne pour mettre en valeur leur candidat. C'est particulièrement vrai pour un candidat comme Éric Zemmour, par exemple.
Dans cet activisme souterrain, les pratiques comme l'astroturfing, qui est une stratégie de communication dont la source réelle est occultée et qui prétend à tort être d'origine citoyenne, en quoi ce travail numérique des équipes sert ou dessert les candidats à la présidentielle ?
Le travail souterrain, il sert dans la mesure où il accroît la visibilité, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels, parce que du coup, si vous êtes plus visible sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels s'intéressent davantage aussi à vous. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a le revers de la médaille, pour le dire simplement, qui est le reproche de l'artificialité, ce qui s'est passé avec Zemmour. Et donc, il y a un ensemble d'attaques, contre-attaques de la part des équipes numériques. Vous avez peut-être vu ça avec le hashtag sur Twitter, « Nous ne sommes pas des robots », je ne sais plus exactement quel est, et on soutient Zemmour. Donc, mais c'est une réalité. Enfin, moi, je mesure notamment les nombres de tweets qui sont postés à l'occasion des interviews politiques. Enfin, je travaille avec des collègues sur ce projet, et on voit bien que si on compare par exemple Marine Le Pen et Zemmour, en gros, on a 4 fois plus de tweets qui sont postés sur Éric Zemmour que par exemple sur Marine Le Pen. Donc, on a vraiment le sentiment qu'il y a des militants d'Éric Zemmour, mais qu'il y a aussi une dimension automatisée qui n'est pas négligeable. Donc, mise en visibilité, mais critique d'artificialité de notre côté. Et donc, de ce point de vue, c'est pas extrêmement positif pour le candidat. Il y a d'autres pratiques qui peuvent desservir le candidat. Je pense à notre candidat président, Emmanuel Macron, qui a une équipe de jeunes qui produit des affiches, qui teste des affiches, où il est mis en scène dans, selon des codes esthétiques qui rappellent les séries télévisées. Ces affiches, elles tournent sur les réseaux, elles sont également critiquées. Okay. Donc, on en parle, donc ça fait du buzz, donc c'est plutôt positif, parce qu'il vaut mieux qu'on parle de vous, même en mal, plutôt qu'on ne parle pas du tout de vous. En même temps, en termes de crédibilité de la parole politique et de crédibilité d'un candidat, parce que c'est aussi ça, enfin, une élection présidentielle, c'est aussi une posture, une crédibilité, un ethos qui fait que si vous apparaissez soutenu par des robots, c'est plutôt quelque chose de nuisible.
Comment les plateformes font maintenir les règles du jeu pour lutter contre les fausses informations ou l'influence de pays ou groupes considérés hostiles ?
Les plateformes elles-mêmes, elles mettent en place des organisations, des structures au sein de leur organisation qui sont destinées à surveiller ces phénomènes. C'est le cas de Facebook, enfin de Meta maintenant, donc Meta qui gère à la fois Facebook et Instagram, avec un travail de repérage qui est fait lorsque on a un doute sur un contenu. Mais ce doute, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que vous avez souligné qui concerne les fausses informations, donc la vérification de la véracité d'une information. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque pas le travail des plateformes, parce que ça dépend de la manière dont on les considère. Mais si ce sont simplement des hébergeurs de contenu, on pourrait supposer que ce n'est pas leur travail de vérifier la véracité des informations, mais que c'est le job, on va dire, des journalistes, des internautes qui lisent ces informations. Et puis après, il y a ce que vous avez appelé l'ingérence. Alors, c'est un soupçon qui est très présent depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le fait qu'il y ait des puissances étrangères qui pourraient venir influencer les résultats d'une élection en mobilisant, on va dire, des petites mains pour pousser, on va dire, tel ou tel contenu. Là-dessus, il n'y a pas vraiment d'action. Twitter a une action, un petit peu cosmétique, puisque la plateforme suggère de vérifier les contenus que l'on partage avant. Enfin, vous avez cette fonctionnalité qui fait que lorsque vous cliquez sur un tweet, on vous dit, vous vous apprêtez à partager une information que vous n'avez pas lue. Est-ce que vous ne voulez pas d'abord la vérifier ?
À noter enfin que le gouvernement français a mis en place une agence, Viginum, chargée de la protection contre les ingérences numériques étrangères pendant cette campagne. La Russie, la Chine, la Turquie, les conspirationnistes américains sont particulièrement surveillés. Minute présidentielle, c'est le rendez-vous politique du podcast Minute Papillon, préparé par Anne-Laetitia Béraud avec Charles Détieux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit et vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes diffusés. Merci de votre écoute, à très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.